Bonjour les amis, ravi de vous retrouver avec mon compère et ami Jean-Pierre Fleury, accompagné de Joël Fondacci et de Stéphane Casalongue. Nous allons bien dérouler une nouvelle émission, bien sûr, une nouvelle séquence de Naturellement Vôtre. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à nos assiettes.
Naturellement Vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Comment il va ?
Bonjour, copains d'aujourd'hui et copains de demain, compagnons d'aujourd'hui et de copains de demain. Copains et compagnons signifiant qu'ils partagent le pain.
Partagent le pain, ah, tout à fait.
On va pas féminiser le mot.
Non. Hein.
C'est tellement vilain que j'arrive même pas à le dire.
Moi non plus.
Bon, alors, on va avoir tout ça par le menu puisque nous allons manger ensemble, encore une fois, peut-être.
Oui, oui, oui.
Et on va commencer puisque c'est bientôt l'heure de passer à table, ou même des gens le sont déjà. Petit menu bizarre pour mettre les gens en appétit et pour montrer, ça va être le thème de notre émission, que tout se mange et que c'est simplement une question de temps et donc de civilisation, donc dans l'espace et dans le temps.
D'accord.
Un menu bizarre qui sont des choses que j'ai mangées à l'occasion de quelques pérégrinations. Bon, on va commencer par l'apéro, même si c'est une habitude bien française, j'allais dire. À l'apéro, on va accompagnant un vin de palme venu de Guinée ou manger bu en Guinée, nous allons faire griller quelques Mopone worms.
C'est quoi ?
Ça c'est une chenille, d'une très grosse chenille, donc bien sûr d'un papillon. C'est très courant en Afrique du Sud.
Cru.
C'est grillé.
Ah, d'accord.
Si on préfère, mais ça je le garderai plutôt pour le fromage, il y a les vers de palme, qui eux se mangent crus, c'est assez spécial aussi.
C'est ceux qui sont assez gros.
Ils sont gros et gras.
Et qui ont un goût de noisette, paraît-il.
Voilà, oui. Vaut mieux la chervionne.
Oui, à mon avis, oui. Alors ça, c'est l'apéro.
Ah oui, bon, fini. On peut peut-être avoir quelques endettes. Des endettes, là aussi, ce sont des larves, mais cette fois des larves un petit peu comme des larves de ver blanc, enfin comme des vers blancs d'ailleurs. Mmh. Mais il faut les faire griller, pas trop, hein, toujours. Mais ça, c'est plutôt du côté de la Réunion.
À point.
À point. Mmh. En entrée, je suggère du foie de phoque.
Pourquoi pas ?
Cru, bien sûr.
Ah non !
Ah si ! Si, ça c'est plutôt du côté des Inuits. Il faut pas manger trop, mais c'est charmant. C'est une. Ensuite, pourquoi pas venant du Cameroun, des darnes de python.
Ah, mais grillées.
Exactement. Si le beurre est bon, ça peut être comme du poisson quoi. Alors des darnes, pas du filet. Hein.
D'accord.
Hein, c'est donc ça se. Ouais, coupe
parce que
en
le piton, le python se mange comme d'autres
le
serpents
piton
probablement.
Se mange et se coupe en tranches.
Voilà. Hein.
Ensuite, pourquoi pas le venant de, on va dire, de Floride, des alligators sur son lit de lotus.
Waouh. On mange quoi dans l'alligator ? Le filet ?
Oui.
Il y a toute chair blanche.
Oui, c'est une chair blanche. Ça a goût de la sauce qui est autour. On pourra revenir là-dessus.
Voilà, ouais.
Alors ensuite, en plat, nous suggérons des iguanes.
Ouais.
En sauce, bien sûr, hein, parce que c'est la sauce qui fait l'iguane, c'est bien connu. Venant du Brésil, cette fois.
Hein.
Ensuite, nous pouvons continuer par une poêlée de pâtes d'ours brun, venue du Canada. Hein. Et ensuite, pourquoi pas, des filets d'ours blanc, toujours avec nos amis Inuits. Le tout accompagné, on l'a dit, de vin de palme, pourquoi pas, venant de Guinée. Et ensuite, avec les plats principaux, du vin de lait de jument, ça vient de Mongolie.
Ah ouais, du vin de lait de jument.
Ouais, faut pas se tromper là. C'est une.
Ah
ouais. Et puis un petit peu de cachiri de Guyane. Et puis pour un dessert, on verra si on a encore faim.
Oui, parce que le dessert, à la limite, c'est probablement des fruits, quoi. Non.
Autant faire simple.
Si on y arrive. Hein.
Oui, voilà. Parce que dessert, ça veut dire qu'il se mange en dernier.
Oui. Hein. Mais il peut manger autre chose que des fruits, remarquez.
Le dernier des convives.
Oui, oui. Et ouais, ah oui. Alors, en préparant ce rendez-vous, vous me disiez que probablement l'anthropophagie était quelque chose courante avant.
Ah oui, c'était. Alors, on va revenir. Qu'est-ce qui nous fait manger ? Bon, bien sûr, le besoin d'avoir de l'énergie, le besoin de prendre du plaisir, qui est quand même un besoin primordial.
Mmh.
Hein. Et puis, qu'est-ce qui nous fait manger ? Alors, parfois, le besoin, les préceptes d'une religion ou les tabous d'une religion. Alors, le cannibalisme, ça ne veut pas dire qu'il mange son chien. Hein. Cannibale, ça, c'est pas le
non,
chien. C'est un mot venant qui a été rapporté par Christophe Colomb. C'était les anciens Caraïbes, hein, les caciques, les caïques, qui, effectivement, mangeaient leurs ennemis. Donc, ils appelaient ça...
Mais c'était aussi très animiste, ça, de manger son ennemi. C'est-à-dire qu'on prenait son âme, on prenait tout, quoi.
Ah oui, alors... Il y a des espèces qui en mangent d'autres. Et au nombre de ces espèces, il y a les anthropophages, c'est-à-dire des hommes qui mangent des hommes. Alors, c'est une vieille habitude. Bon, on a retrouvé, par exemple, au Paléolithique, on a retrouvé des os brisés qui étaient manifestement brisés par des outils et non pas par des mâchoires, donc pas par des animaux, pour extraire la moelle. Ça, c'est pas tellement loin, c'est nos amis niçois.
Ah oui.
Enfin, les ancêtres de nos amis niçois.
Hein, là, vous n'allez pas leur faire plaisir. Là.
La Côte d'Arago. Oh, tout le monde va être servi. Alors là, il va y en avoir pour tout le monde, à ce banquet-là. Tiens, Vlatipok, on arrive en Corse.
Et alors, chez nous
Alors, je vais décrire un endroit que nos amis du sud de la Corse vont peut-être reconnaître, qui a été décrit, je mets des guillemets, c'est Homer. Hein.
Ouais.
Une double falaise à pic et sans coupure se dresse tout autour. Et deux caps allongés qui se font vis-à-vis à l'entrée en étranglant la bouche. Bouche de
Bonifacio.
Ouais. C'est le pays des Lestrigons.
Des Lestrigons ?
Oui, c'est un des épisodes d'Homère, de l'Odyssée.
De l'Odyssée d'Homère, oui.
Et bien là-bas, il y avait des géants qui ont mangé en brochette, si j'ose dire, les marins d'Ulysse.
Ah ben oui.
C'est pas sûr.
Non, il n'y avait pas de témoins.
Oui, c'est des mauvaises langues qui disent ça.
Mais je voulais juste préciser une chose, Jean-Pierre. Sur le menu que vous avez déroulé au début de votre propos, il faut rassurer tous les défenseurs des animaux. C'est que ces traditions-là, quand vous avez parlé des ours, des phoques et tout ça, sont des traditions qui sont multiséculaires dans ces pays-là.
Puisque j'en ai mangé. Ah oui, bien sûr.
Non, mais c'est une tradition.
Toujours.
Voilà.
Existe toujours.
Voilà, c'est une tradition. Je veux dire, c'est pas à la mode maintenant. Ça existait avant, quoi.
Oh, si vous demandez, non, c'est pas quelque chose qui a été créé.
Voilà,
bien
c'est
sûr,
ça. C'est ça. Hein,
mais c'est quelque chose qui a toujours existé comme ça. Et c'est tout ce qu'on va essayer de dire là, c'est de, sans porter de jugement de valeur, justement, c'est de montrer que tout ça s'adapte à des civilisations. Que actuellement, on est en train d'essayer de nous faire gober pas mal de choses, hein, qui sont sous prétexte de véganisme, de toutes sortes de ismes, etc. D'ayatollisme par rapport à la bouffe, on arrive à manger des choses qui paraîtront aberrantes quand 100 ans ou dans 200 ans, les gens regardent ce qu'on mange. Ils se diront, mais pourquoi ils mangent ça? Il y avait tellement de bonnes choses à côté. Et ils savent que là-dedans, il y a des œufs. Alors, des œufs 330, hein, pas
ouais,
des œufs.
Ouais, ouais.
Il y a des œufs dans tous les paniers, là, ils sont tous dans le même panier. Et sachant que on est au courant que ça nous fait crever.
C'est clair. Alors, dans la nourriture là, que vous précisiez, que vous avez dégusté tout ça, bien sûr.
Des fois du bout du bec. Hein.
Oui, je m'en doute. Moi, le foie, j'aurais bien voulu vous voir.
Hein. Je vais vous raconter. On était justement en train de filmer une famille d'Inuit, avec laquelle ça faisait une bonne semaine qu'on était là. Donc, on avait partagé plein de choses. Et les Inuits, les garçons, tuent un phoque. Donc, ils reviennent avec. Et il y avait la grand-mère avec les enfants qui attendaient.
Mmh.
Et la grand-mère, immédiatement, elle a pris le phoque. Et avec, vous savez, ils ont des couteaux qui coupent très très bien, mais de forme arrondie, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Elle a commencé à découper tout ça, et donc à sortir le foie, qui était encore chaud. Il y avait des petits-enfants qui pourraient être mes petits-enfants, exactement la même tête que quand ils demandent de la confiture, hein, qu'ils sont ravis.
Ouais.
Et là, elle a donné des grosses lamelles de foie à chacun des gamins, qui s'est retrouvé la bouille toute maculée, justement, de sang, exactement comme nos enfants peuvent avoir du Nutella autour de la figure, etc. Et puis mon regard a croisé le regard de cette dame, et elle a senti que ça me ferait extrêmement plaisir d'y goûter. Et donc j'ai eu une grosse tranche de foie, de foie cru chaud que j'ai gobé du bout du bec. Hein. Mmh. Alors là, il faut faire attention de bien sûr le manger. Il faut faire attention de pas le manger trop vite parce que ça voudrait dire qu'on en voudrait encore. Donc ça c'est à peu près arrangé. Et la dame, après, elle avait gardé, pour sa fine bouche à elle, ce qu'il y a de meilleur, apparemment. C'est-à-dire que le phoque, il avait un petit trou dans la tête, quand même.
Et oui,
elle mettait son doigt dedans et retirait la cervelle.
Oh.
Et là, j'ai été extrêmement lâche. J'ai cessé, depuis ce jour-là, de croiser son regard.
Oui, bien, ça, on peut le comprendre. Hein. Alors, on va écouter une chanson qui m'a toujours fait rire. C'est Alice Donna, qui a écrit, il y a quelques années maintenant, hein, la chanson hypocalorique. Alors, moi, je vous demande de tendre bien l'oreille et de voir tout ce qui va être interdit de manger, si on suit la chanson, bien sûr, dans les semaines à venir, ce qui ne va pas être notre cas à nous.
Où sont-elles les baigneuses qui troublaient le cœur de Renoir, les jeunesses bien pulpeuses qui rôdaient autour du chat noir? Ces beautés rondes et sublimes n'ont plus cours, nous vivons sous le régime du régime de la suppression de tout. On dit maigre comme Régine, on dit plus maigre comme un clou. Cette chanson, parole et musique, hypocalorique, est faite pour vous. Faut supprimer le pâté, la beauté, le potage et les pâtes au gratin, le riz au lait, le riz au lait, le risotto, le riz complet, le lolo du matin. la tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bouvray, le gevrey, chambertin. Parce que c'est beau d'être bien dans sa peau, réveillons, cotillons, serpentin. Chantons tous sur ces quelques notes, le jus de carotte et les jours sans pain. Quand ils seront des squelettes, des fantômes, des purs esprits, hommelettes et femmelettes se feront peut-être encore en vie. Et l'on entendra les couples dans le cliquetis des os, se dira comme on est souple, se dira comme on est beau. Mais quand on mangeait de la soupe, on se tenait quand même plus chaud. Cette chanson, sans aucun corps gras, tu la chanteras sans doute avec moi. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin, le riz au lait, le riz de veau, le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bouvray, le gevrey, chambertin. Et faut se priver de faisan, parmesan, de ragoût, de goulash et de frites. Faut arrêter les pastèques, le rhum sec, les maquis, les grandes crues et les cuites. Les cornichons de Dijon, le bigorneau de Concarneau et le mou du matou. Faut supprimer la pistache, le pistou, les poutous, il faut supprimer tout. Et le mireton, les boutons, les croutons, la choucroute et les touffes chrétiens. La paella, la pizza, les petits pois, l'avocat, la vodka, les pots de vin. La poule au pont, les tripons, les impôts, le potiron, le pot-au-feu, les potins. Et le radada, le dodo, les babas, les bonbons, les citrons, les pépins. Ah, ce que c'est bon d'être bien dans sa peau, réveillant, cotillon, serpentin. Si vous êtes toujours à la diète, au jus de chaussettes, au jus de cailloux, cette chanson, paroles et musique, il faut calorique, est faite pour nous.
Bon, eh bien écoutez, je suis complètement décontenancé.
Naturellement vôtre. En rediffusion le mercredi à 21h.
Loin de nous.
C'est juste une chanson. Hein.
Bah oui, mais attendez, ouais, si vous supprimez tout ce qu'il y a là-dedans, tout ce qu'elle dit, on est tous en dépression.
Oui, mais tout à fait. Mais parce que la nature nous a donné un cerveau. On n'est pas obligé de manger uniquement pour se sustenter. Je le répète. Et le plaisir, bordel.
C'est vrai, vous avez bien raison.
Et oui, parce que, vous savez, c'est peut-être ce qui nous différencie des animaux. Les animaux mangent pour se sustenter. Hein. Ouais. Et tant qu'il y en a, ils mangent d'ailleurs. Hein. Et puis, il leur arrive aussi de commettre la chose avec madame. Hein, pour autre chose que d'avoir des enfants.
C'est vrai.
Et nous, il nous arrive, bien sûr, je pense, d'avoir constaté en votre compagnie de manger pour le plaisir. Et je pense aussi qu'il doit nous arriver de faire la chose pour autre chose que pour avoir des enfants.
Ah bah oui, il vaut mieux.
Donc c'est le propre de l'homme.
Sauf quand il y a une panne de télé.
Oui, quand il y a eu la grande panne d'électricité
à New York.
Il y a eu un baby-boom. Alors, je l'ai évoqué, on mange pour se nourrir. Alors pourquoi doit-on se nourrir? Parce qu'on a besoin d'énergie, hein, ça c'est totalement évident. On mange pendant normalement pendant les moments, on se gave pendant les moments où il y a pléthore de nourriture, pour faire une chose qui est maintenant largement haïe, hein, exécrée, pour faire de la graisse. Un organisme qui ne sait pas faire de graisse est un organisme qui est condamné. Parce que après la période de pléthore, il y a la période de disette. C'est-à-dire qu'en gros, on danse devant le buffet. Et si on n'a pas fait comme les hérissons ou comme les ortolans ou comme tous les animaux de la création, si on n'a pas fait des réserves pour les moments où ce sera l'hiver ou pour le moment où on doit migrer, etc., eh bien, on n'aura pas de descendance parce qu'on restera mort sur place. Hein, donc c'était. Alors, pourquoi les hommes sont gras comme des petits cochons, si j'ose dire, c'est parce que les hommes ont réussi à s'inventer une vie en dehors de cette vie animale dans laquelle, pardon, je vais peut-être choquer, mais il y a pléthore en permanence. C'est-à-dire qu'il y a en tout cas la possibilité d'avoir de prendre de l'énergie en mangeant pratiquement tout le temps.
D'accord. Voilà. Alors, je suis tombé sur. On a parlé de cannibalisme tout à l'heure, Jean-Pierre. Et il y a des histoires qui sont complètement insolites.
Croustillantes.
Oui, alors, je regardais qu'en 2014, c'est pas vieux, il y a deux chefs britanniques complètement barrés et qui ont mis à leur carte un burger au goût d'Homo sapiens. Alors, bien évidemment, ils se sont contentés de récits des
je sais pas quel goût ça a, moi.
Alors, ils disent que l'américain William Sebrook, qui est mort en 1945, disait que ça avait le goût d'un bon veau bien maturé. Un Allemand qui s'appelait...
Oui, bah moi, j'en connais qui aurait plutôt le goût d'une vieille vache.
Alors, justement, ils disent que... Il y en a un autre. Hein,
bon, allez, c'est l'heure de manger.
Non, l'autre, c'était un boucher carrément. C'était un tueur en série.
Oui, non, mais il y en a plein. Non.
Il préférait... Il a dit quand même que ça ressemblait un tout petit peu au sushi.
Voilà.
Mais bon.
Mais le On va reparler du cannibalisme en montrant que justement c'était quelque chose qui mettait pas les gens en dehors de la société quand ils pratiquaient chez ces gens-là. Hein. On se rappelle simplement que les Romains, prenaient des remèdes médicaux à partir de la chair humaine. Ou du sang, puisque par exemple les épileptiques étaient censés boire le sang des gladiateurs pour être guéris. Hein. Oui. Et puis on a vu, le cannibalisme, et l'anthropophagie.
Il est tué pas pour ça, mais le fait est qu'on disait qu'il était mort.
C'était là, autant s'en servir. C'est pour ça qu'il y avait des légions. Aujourd'hui, à chaque fois que je sens que je vais dire une bêtise, je bégaye. Donc, à mon avis, l'émission va être très longue. Hein, parce que s'il y avait des légions et du sang, ils auraient pu se mettre à chanter. Tiens, t'auras du boudin.
Je l'attendais.
Voilà. Et puis, bon, alors, il y a eu de l'anthropophagie, de nécessité. Plutôt que de mourir, on va manger celui qui est sur le radeau de la Méduse à côté.
Oui, c'est clair.
Celui qui est dans l'avion des
Mais il y a eu des Everest, dans l'Everest.
Bien sûr. Mais il y avait aussi ça existait, hélas, à cause des turpitudes de l'histoire du XXe siècle. Le dernier en date, la Corée du Nord, où en 90, il y a eu une vague d'anthropophagie parce que les Coréens n'avaient plus rien à manger. Ouais. On se souvient que, c'est bien, bien longtemps avant, mais c'était sur nos terres, là, à l'occasion des sièges qui avaient lieu sur les châteaux forts. Le château de Turnus a été imprenable, mais il n'y avait plus rien à manger et les gens se sont mangés entre eux. C'était au XIIe siècle. Il y en a partout. Juste une petite chose assez marrante, les arrière-grands-parents de Nicolas Hulot ont été témoins de ça. Alors s'il écoute, bonjour à lui déjà, mais c'est juste un rapprochement. Il y a un couple de cinéastes en 1917 qui s'appelait Martin et Osa Johnson.
Oui. Hein?
Ces gens-là sont allés aux Nouvelles Hébrides, le Vanuatu actuel, et ils ont filmé des cannibales. Et là, ça s'est très bien passé, jusqu'au moment où d'autres sont arrivés de l'intérieur des terres et ont voulu les mettre à cuire aussi. Donc ils se sont enfuis et c'était des gens assez tenaces. Ils sont revenus quelques années plus tard en projetant ce qu'ils avaient filmé.
D'accord.
Donc il y a eu quelque chose d'extraordinaire et ils se sont filmés à cette occasion-là. Donc ils ont fait déjà le making of. Ce qui a été extraordinaire, c'est que permis d'aller filmer beaucoup plus loin, parce que les gens des Vanuatu, les indigènes du moment, ont cru qu'ils avaient des pouvoirs surnaturels, puisque sur les gens qui étaient filmés et qui étaient montrés pendant la projection de Bruce, il y avait des gens qui étaient morts depuis. Alors d'un seul coup, ils leur redonnaient la vie. Donc ça leur a permis de faire beaucoup d'autres films en se mettant en situation. Et là où je dis que c'est les grands-parents ou les arrière-grands-parents de Nicolas Hulot, c'est que justement, ils ont compris que leur image au milieu de ce qu'ils filmaient était extrêmement importante. Contrairement à deux benets que je connais, qui s'appellent Jean-Pierre Fleury et Igor Barrère, quand ils ont filmé les histoires naturelles, jamais ils ne se sont mis en situation. Ah. Et là, alors, bien sûr, j'avais pas le physique de Madame Johnson, qui était extrêmement mignonne, et c'est assez étonnant, c'est devenu des immenses vedettes quelque part du côté de Broadway, dans les films de la RKO, etc. Et elle a inspiré deux personnages que tout le monde a en tête, déjà la femme de Tarzan,
Jane.
Puisque Monsieur Riceboro en avait fait un être un petit peu asexué, donc ça a manqué au lecteur, donc ça a été la femme de Tarzan. Et puis elle est directement le personnage féminin dans King Kong.
Tombe amoureuse de King Kong
et puis que King Kong va amener tout en haut de l'Empire, etc. Donc, où ça va se nicher, la radio, le cannibalisme et autres, allez savoir.
Dites-moi, Jean-Pierre, lorsque l'on parlait de ces tribus que vous êtes allé visiter, primitives ou pas, parce que le mot primitif
est différent.
J'ai souvenir qu'il y avait des morceaux de choix que l'on donnait aux invités d'honneur. Je me rappelle le mouton, par exemple, dans les tribus Touareg, dans le désert, où ils nous offrent les testicules du mouton et le lait de chamelle qu'il faut boire. Il faut surtout pas le refuser parce que c'est une offense. Je suppose que dans toutes vos tribulations et le repas que vous avez défini au début de nos propos, il y a de ça aussi, c'est qu'ils vous offraient le morceau de choix.
Ah bah une des choses, alors j'ai encore Escabeau, donc je vais me mettre à bégayer. Oui, bien sûr, j'avais le morceau de choix. Et ce qui était assez difficile à gober, c'était un œil. Un œil de chèvre, par exemple. L'œil droit pour l'invité de Marc, et l'œil gauche pour le chef de la tribu.
Ouais.
Donc la technique, au bout d'un moment, c'est d'essayer de l'avaler tout cru, hein, de ne pas mâcher. Hein, parce que on y arrive, mais,
ben oui, mais bon.
C'est le lendemain ou le surlendemain que Cain se manifeste.
Ben, c'est clair.
L'œil était et regardé.
Voilà. Hein. Et d'ailleurs, il y a une recette en Italie, je crois que c'est dans la région des Pouilles, ou peut-être dans la région de Rome, je ne sais pas, où ils font cuire la tête de cabri.
Ouais.
Ce que l'on trouve ici aussi, hein, demi-tête de cabri au four avec de l'ail et du persil. Et on mange l'œil et la langue. Alors la langue, ah, oui.
Oui. Mais oui,
l'œil, j'étais très surpris de voir comment... là, pareil, c'est une tradition, c'est traditionnel que quand on mange la tête d'un cabri, on mange aussi son œil.
Alors, très rapidement, pour revenir au cannibalisme
oui.
tribal, si j'ose dire, dans des sociétés premières, on dit pas primitives,
oui.
Il arrive peut-être encore qu'on mange l'œil de quelqu'un parce que cette personne était réputée avoir une acuité visuelle extraordinaire. Ses oreilles, son cœur, parce que, etc., etc. Donc on s'approprie les qualités de la personne.
Voir plus bas, c'est affinité.
oui, oui, d'accord.
Bon, allez.
Alors, on a dit... Alors, on a essayé de montrer que, suivant l'endroit où on est, on peut écœurer les autres, si j'ose dire. Hein, puisque il est certain que moi, si on me donnait une cervelle de singe chaude à manger, j'aurais beaucoup de mal.
Hein, c'est abominable.
Ce serait abominable. Mais je pense que si ces gens-là, on leur donnait du roquefort à manger, ils auraient peut-être aussi des haut-le-cœur.
Ouais.
Donc, c'est la fameuse histoire des grenouilles pour un Américain. Pourquoi pas même certains fromages corses, hein, qui sont...
Aussi, ouais, avec des petits vers dedans, oui.
Oui.
Oui, ça peut surprendre les gens, oui.
Oui, moi j'avais surpris, je vais la raconter parce que je l'ai peut-être déjà dit, mais j'étais chez Yves à la Caladours et les copains, pour me faire plaisir, je venais d'arriver, quoi, donc ils me testaient un petit peu, ont sorti ce fameux fromage-là, qui est le Gazumarzu.
Hein, ou Gazumarzu.
Et donc j'ai commencé à jouer leur jeu parce que je connaissais le truc. Et j'ai commencé à mettre le fromage d'un côté et les verres de l'autre. J'ai laissé le fromage, j'ai mangé tous les verres.
Ah, ils ont été surpris.
C'était juste amusant, quoi.
C'est clair.
J'en ris encore. Alors, on se nourrit, pourquoi on l'a dit. Alors, après, il y a la notion de plaisir, s'il vous plaît. Alors, peut-être d'abord le fait de manger pour être encore vivant, quoi, pour être en vie. Alors, on va s'imaginer rentrer dans un supermarché.
Ouais.
Hein, devant lequel on se retrouve devant 2,5 tonnes de porc.
Ouais.
1,5 tonne de bœuf. Peut-être d'ailleurs là-dessus, à notre insu, 35 kilos d'insectes, hein, avec tous les, on y est, avec tous les asticots et tout ça qu'il peut y avoir dessus. C'est l'OMS qui dit ça. Hein. D'ailleurs, on en gobe en faisant du vélo, on les trouve dans la salade, sous forme d'œufs dans la viande.
Quoi. Et on n'est pas mort.
Et on continue dans le supermarché dans lequel on est rentré. 5000 douzaines d'œufs. Hein. C'est pas mal quand même.
5000 douzaines.
Oui. 4500 bouteilles d'eau. Ça, c'est pour vous, c'est peut-être un peu moins. 15 000 bouteilles de vin. C'est peut-être un peu plus pour certains. 2 tonnes de pommes de terre.
Mm-hmm.
Plus que ça, à mon avis, d'ailleurs. 10 000 tablettes de chocolat.
Wow.
Autant de quelques pots de moutarde, etc. Vous savez ce que c'est, ce supermarché?
Non,
plein de choses.
C'est un truc pour l'année, pour la vie.
C'est simplement la consommation d'un type de 70 ans.
C'est pas
il rentre,
possible.
Il voit tout ça. Il a mangé tout ça. Il a digéré tout ça. Il l'a redonné à la nature sous forme d'œufs, etc.
Oui.
Donc c'est assez étonnant quand même.
Ah oui, c'est plus qu'étonnant.
Ah oui.
Maintenant, je sais pas comment ils se sont basés pour faire ça, mais je suppose que c'est dans les pays développés.
Ah oui, ça évidemment, ça c'est tout à fait parce que
là, le supermarché,
pour avoir...
la paille,
oui. Non, c'est les enfants qui ont du Nutella, hein, c'est pas les autres.
Oui, non, c'est clair.
C'est pas ceux qui travaillent dans les palmeraies pour faire de l'huile de palme.
Malheureusement,
c'est
non.
C'est pas les mêmes. C'est pas...
Mais alors, à ce stade de l'émission, je voulais simplement dire à nos auditeurs, loin de nous, l'idée de vouloir provoquer ceux qui n'ont pas les moyens d'aller acheter à manger. Voilà, c'est simplement pour vous montrer un pan d'histoire, comment ça a commencé et comment c'est maintenant. Voilà, c'est
comment
tout.
Comment c'est maintenant, justement. Parce que, justement, en même temps, il y a de l'ironie dans tout ce que je dis.
Bien sûr.
Hein, c'est
comme une histoire, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, à partir de la deuxième pastèque, j'y arrive pas.
Oui,
hein.
C'est exactement ça. Oui,
c'est ça.
Alors, on va continuer, tiens, à provoquer.
Hein, bah,
vous aimez bien le faire.
Moi, j'aime bien.
Je vais vous lire un menu. Un menu que j'ai recopié. Alors, ça a été long, j'en ai encore mal. Un dîner en 1867, 24 couverts. Ça pourrait être l'association des joyeux notaires de la Garenne-Besançon, quoi.
D'accord.
Alors, il y a deux potages, d'abord. C'est long, asseyez-vous.
Oui.
Deux potages, bisque d'écrevisse et volaille à la royale. Wow. Consommé de volaille à la royale. Ensuite, il y a quatre hors d'œuvre. Il y a des bouchers, des vol-au-vent, de volailles, de riz de veau, etc. D'ailleurs, là, c'est assez marrant, l'invention des riz de veau, c'est quand même un... c'est un des grands cuisiniers, d'ailleurs, qui s'appelle Carême, qui a inventé ça.
Tiens, c'est original, tiens. Il s'appelle Carême.
Carême, ouais. Il y avait les grands cuisiniers, je crois, Escoffier, comme Carême, c'est certain, Apicius pour d'autres, Vatel, oui. N'étaient pas des cuisiniers dans les restaurants, ça n'existait pas. C'était des cuisiniers dans des maisons. Chez le Grand Condé et autres, c'était ça là. Alors après, il y a deux relevés, ça s'appelait comme ça, du turbo garni et des filets à l'anglaise, de merlan à l'anglaise, sauce hollandaise et roast beef à la Saint-Florentin. J'ignore ce que c'est que c'est.
Roast beef à la Saint-Florentin.
Voilà. Tout ça, moi j'ai déjà plus faim depuis longtemps.
Ah bon,
ensuite, il y a deux flans, c'est-à-dire des timbales à la milanaise, garnis de volaille piquée et de noix de veau en bedeau à la jardinière. Ne sais pas non plus ce que c'est que des.
C'était quoi qui était à la Saint-Florentin, Jean-Pierre ?
Du roast beef.
Roast beef.
Bon. Je vous communiquerai tout ça.
Ah oui, mais j'y compte.
Il y a quatre entrées après.
À la Florentine, c'est.
Ah ouais. Bécasse à la Daumont. Je ne sais pas non plus. Matotte de foie gras en croustade, chaud.
Oui, bon, ça va.
Chaud-froid de poulet avec bordure en gelée. Salade russe. Alors, la salade russe, c'est pas complet, puisque c'est légumes, les pommes de terre
oui,
en salade.
Tout le temps, ouais.
Et mayonnaise. Alors, on en profite pour rétablir un petit peu, j'avais dit une autre grande bêtise, mais celle-là, je m'en ai aperçu. La mayonnaise a été inventée à Minorque, donc à Mahé. Effectivement, quand il y avait une escadre française qui était, je crois que c'était vers 1840, qui partait vers la conquête de l'Algérie. Et c'est le cuisinier de l'escadre qui a inventé la mayonnaise, donc, parce que c'est originaire de Mahé, donc capitale de Minorque, dans les Baléares. Voilà.
Bon.
C'est dit. Alors, il y a deux bouts. Alors, c'est pas deux bouts. Dinde truffée, sauce périgueux, sel de chevreuil, poivrade et groseille. Pourquoi pas?
Oui,
deux
bon.
Flans. Alors, on revient au flan parce qu'on y était.
Ouais.
On y est là sur le flan, remarquez.
Oui,
croque en bouche d'Auvergne, biscuit à l'italienne, et puis après quatre flans, bon, des cardes à la moelle, pourquoi pas, hein, parce que c'est très léger la moelle.
Oui. Après tout ce qu'on a eu avant, c'est
oui, voilà. Non, enfin bon. Et je vous passe les fromages qui vont bien, les desserts, bien sûr les vins qui sont obligatoires avec tout ça. Enfin, on savait vivre. Alors, je reviens à ce que vous disiez, c'est que il valait mieux être riche et en bonne santé.
Ça, hein. C'est
clair. Deux choses extrêmement précaires d'ailleurs, parce que la bonne santé quand on bouffe autant, ça s'en va, et la richesse aussi, parce qu'il fallait avoir quelques sous pour tenir de telles tables.
C'est hein. Clair. D'ailleurs. J'ai remarqué que les trois repas que l'on sert maintenant partout dans le monde, c'est pas si vieux que ça. Au Moyen-Âge, il y en avait que deux.
Il y en avait que deux, mais quand ils s'attelaient... Alors regardez, un tout petit peu après la Renaissance, quand on voit, alors c'est dans les films, mais c'est vrai, tout faisait ventre. Hein, sauf ce qui était réputé étant extrêmement toxique. Autrement, on voyait arriver sur la table des seigneurs, alors pas celle des manants, pas celle des vilains, mais on voyait arriver au son, les troubadours jouaient de la musique, et il y avait des pans qui étaient reconstitués, enfin des pans, de la volaille, les pans, qui étaient reconstitués, des faisans, des hérons qui étaient en train de pêcher, enfin, il y avait aussi une mise en scène extraordinaire, sachant aussi qu'il y avait, tout ça était éminemment épicé, le plus possible, parce que la chaîne du froid n'existait pas.
Non.
Et que c'était déjà très largement digéré par la pourriture.
Mais oui.
D'où l'importance des épices, qui a fait qu'on a découvert le monde. Parce que c'était pas pour aller chercher le jazz ou autre chose ou le ketchup ou le Coca-Cola que Christophe Colomb a traversé les Amériques. C'était pour essayer de trouver des épices. Et, bon, venant bien sûr des Indes orientales et non pas occidentales, puisqu'on savait pas qu'elles existaient. Donc l'histoire de la conquête du monde, c'est la conquête des épices, en particulier pour amener du poivre, de la cannelle, toutes ces choses qui étaient des cache-misères, parce que c'était impossible de boire le vin ou de manger des choses qui étaient déjà largement prédigérées.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les scientifiques sont clairs là-dessus. Ils disent que manger trois fois par jour, ça n'a aucun effet bénéfique sur la santé ni sur le poids. C'est une étude qui a été publiée en 2015. Et que la répartition traditionnelle, Jean-Pierre, paraît-il, des repas en trois sessions, viendrait de elle date en gros de l'invention de l'agriculture, parce que la fatigue, ça pompait en énergie, et que là il fallait absolument qu'il y ait trois repas. Et ce qui est étonnant, c'est que les notables, eux, n'en prenaient que deux, hein, parce qu'il fallait pas se distinguer du peuple, bien évidemment. Hein.
Oui, enfin, les Romains, où ça durait. On se rappelle que on parle des orgies romaines, ça nous faisait, quand on était gamin, on apprenait ça. Bon, déjà, ils mangeaient allongés. Hein, donc ça permettait de
J'ai essayé, durer. C'est pas très pratique.
Hein. Oui, Sénèque, vous connaissez ce gars-là?
Ah, le type, celui qui est isolé sur la tour de Sénèque.
Oui, il décrit une orgie romaine. Ils vomissent pour manger et mangent pour vomir.
Eh oui, bien sûr.
Elles ne daignent même pas digérer les festins qu'ils ont mis. Pour lesquels ils ont mis tant à contribution la terre entière.
Ouais, bien sûr.
Hein, ouais. Donc, là, c'est tout ça, c'était effectivement en face de chez eux, il y avait des gens qui attendaient les miettes.
C'est clair.
On est bien d'accord.
Alors, on va écouter une autre chanson. On revient chez nous avec l'art du boire et du manger, l'art di uia et di umandia, et c'est Sbeyuni Isula qui nous chante cette chanson.
Pratica tu stare in pareti occasioni, ricercando un poco non ci rimozioni. Vini in aiutasta ta non ta taulini, in bicchier di vetro di cristalli vini, nobili palazzo pur scuri cantini. Ma sa cucinanti che noi in dogulaio ritro, l'arti lui ed un mangia. Pure a concia i spezzi in cui ingredienza tradizioni esperienze tanti mani parlato di pranzi ricercati dall'intelletto di cucinare sti dati si buttananta tua di rigammati d'altri ma rimontato la dorduna rustito d'una crema vina e zuro scudo su scritto tanto mi paria dalle mani a te vito e sa cucinanti che noi in dopo l'aglio ritro l'arti lui e tu mangia e lui pure a concia i spesi in cui ingredienza tradizioni esperienze c'è tre di acciva ci sinfonia in caffè dell'artista io mi sono danzato e lo so sappe fatto andare un scoparto tocca di taranto da verità cantato ma sa cucinanti che non con te l'aglio ritro l'arte io mi è domania qui lui pure a concia i spezi in cui l'ingredienza tradizioni esperienze e sa cucinanti che no con te gulario ritro l'arti lubi ed umania qui lui pure a concia i spezi in cui l'ingredienza tradizioni esperienze
naturellement vôtre, quand vous voulez en podcast, sur bleurcfm.co.
Et l'on parle des arts de la table aujourd'hui, côté cour, côté jardin, comme on veut, avec Jean-Pierre Fleury. Oui. Alors c'est vrai que bon, vous avez mis en appétit, mais c'est vrai aussi que un appétit léger quand même. Hein. Ouais. Il y a des choses qui étaient un tout petit peu réparbatives, mais qui étaient ragoûtantes. C'était pas ragoûtant quoi. Moi, je cherchais des repas d'avant. Oui. Alors je suis tombé sur des trucs, Jean-Pierre. Heureusement qu'on y est pas à ce moment-là. Mais bon. Les Grecs.
L'amicale des joyeux animateurs de la RCFM.
Ah, c'est un truc de dingue. Les Grecs, en l'an 420, ouais, avant Jésus-Christ, bien sûr, avaient offert à Alcibiade des plats complètement fous. Alors, les têtes de squale au miel, des tétines de truie et des entrailles de brebis farcies au sang.
Oh bah, ça, c'est, oui, mais c'est, hein, c'est de la tripette, ça.
C'est de la tripette. Et en 1549, donc on est dans la verre, c'est la ville de Paris qui a offert un repas à Catherine de Médicis. D'ailleurs, le menu est conservé, paraît-il, à la Bibliothèque nationale. Il y avait 16 plats. Alors, il y avait des pains et des hérons, de la moelle de bœuf au sucre candi. C'est très anglais, ça, hein, avec le sucre. Des aigles rôtis, des poussins, des crêtes de coq au fond d'artichaut.
Ah oui. Ça se mange encore.
En omelette. Je veux dire, ça, c'est des choses que l'on trouve encore. La moelle de bœuf, on en sert au sel, par exemple. Donc il y a des choses, il y a quand même des plats qui ont franchi les époques.
Oui. Mais chaque temps, chaque civilisation, à la fois dans l'espace et dans le temps, a ses habitudes, ses goûts et ses tabous. On peut prendre les habitudes alimentaires, effectivement, actuellement. Pourquoi pas encore, bien que les différences s'estompent, puisqu'on est plus prêt de tous manger du McDo que garder ces différences. Mais les Inuits, les Esquimaux, d'ailleurs, Esquimaux, ça veut dire qu'ils mangent de la viande crue. Ils n'aiment pas trop qu'on les appelle comme ça. Ah bon. Ils préfèrent la notion d'Inuit, qui veut dire un homme capable de vivre dans le froid, de chasser, etc. On l'a vu, donc mange plutôt un petit peu de... On a parlé de l'ours blanc, ça peut choquer. Ouais. L'histoire du what the fuck. Ils mangent du narval, ils mangent de la baleine, ils mangent un tas de choses comme ça. Hein. Sur le marché de brousse africain, on peut voir du singe, on peut voir même... Moi, j'ai vu une des images les plus terribles que j'ai vues, mais en même temps, il n'y a aucun jugement de valeur, parce que les gens le faisaient, ils l'ont fait avant nous, sinon que là, il y avait le modernisme qui arrivait, tête de chimpanzé qui était prise dans un cube de glace. Et au fur et à mesure que ça dégelait, on voyait apparaître la tête de chimpanzé. Je vous assure que là, ça ne m'a pas donné envie de manger du
singe. Et c'était traditionnel, ça ?
La viande de brousse, bien sûr.
Et oui, bien sûr.
Ce qu'il y avait autour faisait ventre. C'était... Alors, que ce soit pendant très longtemps, les animaux aidaient les hommes aussi, puisque les hommes n'avaient pas forcément la puissance pour tuer un buffle, par exemple. Mais lorsqu'un buffle était tué par un lion et autres, il y avait toujours des choses à manger dessus. Hein. Ouais, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, je ne cherche pas à inciter à dire c'est
non,
bien ou c'est
non,
mal.
Non, non,
c'était
ça,
juste
un constat,
comme ça.
Quoi.
Et donc le constat, il arrive aussi sur certains trucs. Bon, en Chine, on mange, au Japon, on mange toute la mer, vivante. On mange les poulpes vivants, hein. On mange des poissons vivants. Et puis...
on mange vivant.
Oui, oui, mes chers monsieur. Non. Ça vous rappelle pas quelque chose? Essayez de manger une huître morte.
Ben oui, c'est vrai, vous avez raison.
Essayez de manger, de manger un oursin qui est crevé.
C'est vrai, vous avez raison.
Ben
voilà. Raison.
Et puis une fois,
dans le coup,
il y a effectivement. Oui, non, mais mais pourquoi? Je veux dire, c'est une.
Ben parce que ça colle à la mâchoire.
Ah bah d'accord, oui, parce que c'est pas bon. Parce que c'est pas bon, d'accord.
Puis il faut le battre. Enfin, et puis Jean-Pierre, ça doit être dur en plus.
Oui, bon, ils doivent se débrouiller, je sais pas.
Ouais.
Il y a beaucoup d'endroits, là, alors, sans parler, il y a les grands tabous qu'on connaît.
Ah oui.
Et les rites. Hein, les rites, cachères, halal et autres, qui sont des préceptes religieux. Dans certaines religions interdites, c'est assez étonnant, il y a toujours des préceptes par rapport à la nourriture qui sont pas... toujours le fait de partager la nourriture.
Oui.
Et tu mangeras pas ça. Autrement, tu. Hein. Donc, les Juifs, normalement, ne mangent pas certains animaux rampants. C'est dommage.
Les musulmans ne mangent pas les angulés.
Et le porc,
voilà.
Si, ils mangent les angulés.
Ah, les angulés, mais pas le porc.
Bah oui, voilà ça. Alors, le porc, bon, il y a diverses raisons. On dit que c'est pour des histoires de prophylaxie, que grâce à ça, on n'a pas le ténia. Ok, parce que c'est effectivement une religion qui, au départ, est une religion de la chaleur. Mais en Mésopotamie, où il y avait bien longtemps avant des porcs qui ont été domestiqués, on les a mangés. Il semblerait que ce soit une histoire de totem au départ, que le porc était le totem d'une tribu très, 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 très longtemps avant l'islam.
Oui.
Et que, comme on mange pas l'animal totem, enfin là on arrive vraiment à des choses qui sont de l'ordre de ce qu'on trouve maintenant encore, par exemple à Madagascar, où il y a les fadis. Les fadis, ça veut dire que certains animaux doivent être protégés. Les lémures, par exemple, dans certains endroits de Madagascar, sont directement les ancêtres.
Ouais, ouais, le tout savent. À fait, ouais.
Donc grâce à ça, à ces endroits, il y a encore des lémures. Hein. Ouais. Même chose, les requins, par exemple. Les requins en Guinée-Bissau, je me souviens, certaines familles de pêcheurs ne mangeaient pas de requins parce que tout simplement, manger des requins, c'était manger le grand-père parce que le grand-père avait été bouffé par les requins. Donc ces choses vont changent complètement suivant le temps, suivant l'espace et suivant les gens. Donc pas de jugement de valeur, peut-être des dégoûts. Mais
oui, c'est clair.
À certains endroits on mange des chiens, c'est regardez bien un chien et un agneau, c'est pas
hein. C'est vrai. Alors Jean-Pierre, avec tous les tours du monde que vous avez fait avec Igor pour Naturel, pour Histoire Naturelle,
j'étais en préparation.
C'est déjà en gestation, c'était. Bien sûr, en fonction des saisons, ces gens-là conservaient leurs produits parce que il fallait conserver la viande. Donc je suppose qu'il y a eu de la viande boucanée, il y a la viande séchée, du poisson séché, ces choses-là.
Il y a tout eu. Alors il y a beaucoup de peuples sont des peuples de cigales. On parlera des cigales d'ailleurs bientôt. C'est en ce sens que la notion de réserve n'existe pas, puisque ce sont des peuples qui sont, sans être nomades, sont encore erratiques.
D'accord.
Et la notion de réserve existe aussi simplement si on a de l'argent pour faire les réserves. Je rappelle qu'à l'heure à laquelle on parle, et on est en train de se goinfrer avec les menus, et on va très certainement le faire une fois que l'émission sera terminée en passant à table, il y a des mamans qui envoient leurs enfants acheter des allumettes avec l'argent pour en acheter deux.
C'est vrai.
Acheter de l'huile avec les toutes petites bouteilles, vous savez, les mignonnettes qu'on distribue dans les avions. Là, ils achètent de l'huile pour faire le carry du soir, quoi. Donc c'est pas là, il faut, pour avoir des réserves, il faut être relativement pléthorique. Alors effectivement, ce qui est assez étonnant, c'est que tout ce qu'on adore maintenant, beaucoup de choses ne sont issues que de réserves. Le fromage, c'est une façon de réserver, de garder le lait qu'on a en surnombre à un certain moment. Hein, on s'en aperçoit, justement, les endroits où il y a énormément de lait d'un seul coup, on fait des très gros fromages, on fait des moules de gruyère, si j'ose dire.
Ouais.
Les endroits où il y en a beaucoup plus longtemps, on fait des fromages frais. Alors maintenant, on les affine, mais ça dépend complètement des endroits. C'est pour ça que même un pays aussi petit que la France a 350 sortes de fromages.
Alors, vous savez quel est le peut-être que ça vous intéresse pas, mais je vais le dire quand même. Le plat le plus étonnant que j'ai dégusté de ma vie.
J'allais vous poser la question.
Eh ben oui.
Alors je vous écoute.
C'était il y a quelques années, j'étais à Madagascar, à Tananarive, et il y a un restaurant qui s'appelle la Table de la Reine.
Oui.
Où très curieusement, on nous sert des huîtres, des toutes petites huîtres qui ont le goût de noisettes.
Peut-être des huîtres de palétuvier.
C'est possible. Du foie gras parce que il y a énormément de gens du sud-ouest qui sont arrivés là-bas et donc il y a des élevages de canards et d'oies. Mais ce qui était étonnant, ce sont les scarabées.
Oui.
Alors les scarabées qui sont juste rôtis.
Oui.
Bien sûr, on voit que c'est des scarabées. Hein, bon. Et ça craque sous la dent.
Oui.
Et mesdames, mes bouches ou les oreilles, le jus est assez curieux. C'est lait, on dirait un tout petit peu de la mayonnaise dans laquelle vous avez mis un tout petit peu de cannelle. Voilà. Donc ça,
c'est peut-être pour ça que j'aime pas la cannelle.
Ben voilà, ça c'est des choses curieuses.
Alors.
Mais je reconnais qu'il m'expliquait la Table de la Reine que c'était traditionnel et que c'était bourré de vitamines. Et on en vient justement. C'est la question que je voulais vous poser avant de conclure. C'est Jean-Pierre, est-ce que à terme on va pas être amené à consommer tous ces insectes qui amènent de l'énergie et qui amènent un plus, quoi.
Oui, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas ça, elle reste.
Hein. Oui, oui, mais bon.
Bien sûr. Ben, il faut savoir, après, il y a toutes les histoires d'empreintes carbone.
Ah, mais ça,
de savoir est-ce qu'on a besoin d'avoir des poubelles qui soient pleines de détritus et tout ça. C'est une autre façon de voir. Une dernière question.
Allez-y.
Qui risque d'être longue. Quel est le meilleur repas en France que vous ayez fait et quel est le repas auquel vous rêvez? On fait une troisième émission entière là-dessus.
Oui, alors le repas que j'ai fait, le meilleur repas pour moi, c'est un repas qui a été fait tout simplement dans la région c'était chez ma sœur, à Pau, avec, c'était une garbure. Pour moi, c'était le bonheur absolu. Et ensuite, avec un confit de canard. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Après, mon repas rêvé, je vais vous dire une chose. Mon repas rêvé, c'est autour de moi des amis, avec simplement un tout petit peu de limonade à consommer avec modération, un morceau de fromage, du pain, des oignons de cisque, pourquoi pas. Voilà, c'est mon repas rêvé, ça. Et pour vous?
Ben moi, c'est le même, et peut-être avec les mêmes amis.
Ben voilà. Vous voyez qu'on a presque... Alors, je voulais terminer ce rendez-vous avec le dîner chez Alexandre Dumas. Quand on voit Alexandre Dumas, c'est quand même
Immense écrivain, et qui a quand même écrit un dictionnaire de la cuisine.
Tout à fait, c'est pour
ça que... Qui est né dans les fourneaux, chez sa mère, quelque part dans la forêt, là-bas.
Alors, c'est un dîner de 32 couverts, qui a été servi le 19 janvier 1864, chez Alexandre Dumas.
18, 19 et 20.
Voilà, alors c'était...
On n'est pas sorti de l'auberge.
Non, loin de là, printanier à la royale, viennoise, ça c'était potage, en hors d'oeuvre, petite bouchée à la cancale, donc ça c'était bien sûr des huîtres, caisse à la marquise, je sais pas ce que c'est. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait les relevés, ce qu'il fallait remettre un tout petit peu l'appétit aux gens. Turbo à l'amiral, sel de venaison à l'anglaise. En entrée, il y avait des poulardes à la rosole, qui était une spécialité italienne. Des filets de bécasse à la favorite. Quenelle de rouget en velouté. Chaud-froid d'alouette. En extra, il y avait un petit punch à un punch à l'ananas pour couper un tout petit peu la chose. Après, il y avait des rôtis. Alors, faisant truffé, sauce périgueux, chapon rôti au cresson. En entremets, une salade suédoise, des asperges en branche, des petits soufflés aux mandarines, un gâteau Marie-Louise, un dessert, et surtout un grand lit pour faire la sieste.
Voilà.
Mais bon, c'était pas mal, quoi, tout ça, quoi.
Oui, tout
c'était
à
pas
fait.
Mal. Mais alors, il y a une question qu'on pourrait poser. Est-ce que ça a évolué? Oui, bien évidemment. Il y a les trois repas par jour qu'il n'y avait pas avant. Le petit déjeuner était quelque chose. Alors, on nous dit que le petit déjeuner vient principalement des anglo-saxons. Alors ça, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vérifié.
Ça dépend où, ça dépend. Les gens qui bossent, le gars qui se lève à 5h du matin et qui, à 9h, se fait un petit spontine. Est-ce que c'est un petit déjeuner? Non. De toute façon, une carcasse humaine, c'est comme une voiture. Il faut en mettre dedans pour que ça marche.
Il faut en retenir.
Effectivement, quand on a faim, comme m'aurait dit ma grand-mère, si tu as vraiment faim, tu vas manger ça.
Bon, alors vous m'avez dit, on a le même repas rêvé, mais votre meilleur repas, c'était quoi?
Alors là, c'est...
Ne dites pas que c'est le foie de phoque, je crois pas.
Non. Non, je sais pas. Moi, il y a parmi les expressions, j'ai mangé, j'étais très ami avec Bernard Loiseau.
Oui, je sais. C'est vrai.
Donc je salue l'âme, qui doit nous écouter de manière bienveillante, comme à chaque fois. Effectivement, le fait de se dire, je reprends une phrase qu'on prête à Clémenceau, le meilleur moment de l'amour, c'est en montant les escaliers.
Eh oui.
Un des meilleurs moments de la vie, c'était de savoir que j'allais aller manger chez Bernard.
Déjà.
Peu importe, d'ailleurs, ce qu'il allait me servir, parce que bien souvent, c'est lui qui choisissait. En disant, ça me fait plaisir. Mon travail consiste à communier, même si je ne mange pas avec les gens, j'ai préparé. Il ne peut pas manger avec tout le monde. J'ai préparé. Donc, il y a un petit peu de moi dans ce que je te sers.
Et ça, c'était beau, ça.
Et je veux dire, c'était assaisonné à l'amitié. Donc voilà.
Ben, c'était le meilleur. Et puis ne pas oublier, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent et qui nous écoutent aujourd'hui, aller rencontrer les producteurs, aller rencontrer les éleveurs, discuter avec eux. Ils vont vous raconter des histoires. N'hésitez pas. Et puis quand vous avez l'impression que ça vous plaît, goûtez-y. N'ayez pas d'a priori sur les choses. C'est le meilleur moyen en définitive de passer à côté de bonnes choses.
Une petite chose. Quand un producteur vous tend quelque chose, pour moi, c'est pour qu'on goûte. Hein, c'est pas forcément pour vous en vendre des kilos. Hein.
Bien sûr.
C'est pour partager quelque chose. Et c'est dans ces circonstances-là et dans d'autres que je vais décrire juste après brièvement, c'est parfois plus difficile de tendre la main pour prendre que de tendre la main pour donner. Et c'est exactement la même chose, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, quand on va manger dans les tribus, entre guillemets, chez des gens qui se sacrifient pour vous dans ces endroits où il y a toujours la part du pauvre. Hein, mais il y a pas toujours assez pour l'ensemble de la famille. Lorsqu'on vous tend quelque chose et que dans un langage que les gens ne comprennent pas, en tout cas que les enfants ne comprennent pas, vous essayez de noyer en disant « j'ai pas faim, je suis au régime », etc. C'est la chose la plus terrible. Ça fait pleurer les enfants parce qu'ils ont l'impression que le papa n'est pas capable de donner quelque chose d'assez bien pour le grand monsieur qui vient de loin et qui, en définitive, se conduit comme un imbécile.
Merci mon bon Jean-Pierre.
Là qu'on est sérieux.
Là, j'ai faim là. On va se retrouver la semaine prochaine où on parlera de certains insectes. La semaine prochaine.
D'accord, c'est promis.
C'est promis?
Oui.
Bon appétit, restez gentils. Hein.
Oui.
into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love.